Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les carnets de l'apothicaire T01 ouvrent une série de mangas adaptés de l'univers créé par Natsu Yuga. Le récit se situe dans une cour impériale imaginaire inspirée de la Chine ancienne, un espace clos où le rang social. Les rumeurs et les rivalités déterminent la sécurité de chacun. Mao Mao, jeune fille formée à l'herboristerie, aux remèdes et aux poisons, y arrive contre son gré comme servante. Elle cherche d'abord à dissimuler ses compétences afin de ne pas attirer l'attention. Pourtant, son observation méthodique lui permet de comprendre l'origine de plusieurs incidents touchant les résidentes du palais. Ce premier volume associe ainsi enquête, chronique de cour et aventure historique fantasmée. Son objectif n'est pas seulement de résoudre des énigmes ponctuelles. Il installe aussi les règles d'un monde où le savoir peut protéger, mais devient dangereux dès lors qu'il révèle les failles du pouvoir. Le manga privilégie une héroïne pragmatique, curieuse et peu sensible aux apparences prestigieuses. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Mao Mao, une enquêtrice définie par son savoir pharmaceutique, la singularité de Mao Mao tient à la nature précise de ses compétences. Elle ne résout pas les problèmes grâce à un statut exceptionnel, à une force physique ou à une intuition présentée comme magique. Son raisonnement part des symptômes, des substances accessibles, des habitudes de consommation et des conditions matérielles dans lesquelles surviennent les incidents. Sa formation auprès d'un apothicaire lui a donné une familiarité concrète avec les plantes médicinales, les toxiques et leurs effets. Cette expertise constitue un outil narratif efficace, car chaque énigme demande de relier des indices ordinaires à une cause plausible. Le volume montre aussi que savoir identifier un danger ne suffit pas toujours à pouvoir agir librement. En tant que servante, Mao Mao doit mesurer les conséquences sociales de ses interventions. Elle préfère donc rester discrète, même lorsqu'elle possède une information décisive. Cette tension entre compétence et vulnérabilité évite de faire d'elle une héroïne toute puissante. Son intérêt marqué pour les poisons renforce son individualité, sans transformer le récit en manuel scientifique. Il sert surtout à éclairer sa curiosité, son regard détaché sur les conventions et sa capacité à voir ce que les autres négligent. La médecine devient ainsi une méthode d'enquête et un langage pour comprendre les rapports humains. Deuxièmement, le quartier des femmes comme espace clos de surveillance et de hiérarchie, le palais impérial n'est pas un simple décor exotique. Dans ce premier tome, le quartier des femmes fonctionne comme un espace fermé, fortement hiérarchisé et séparé du monde extérieur. Les habitantes n'y disposent pas de la même liberté selon leur rang, leur proximité avec l'empereur et les réseaux qui les entourent. Les servantes, les consorts et les responsables du lieu participent à une organisation où les gestes les plus ordinaires peuvent prendre une portée politique. Une maladie, un cadeau, une rumeur ou une erreur de protocole peuvent affecter une position déjà fragile. Cette configuration nourrit naturellement les mystères du récit. Les indices circulent difficilement, les témoignages sont orientés par la crainte ou l'intérêt et l'accès aux personnes comme aux objets reste inégal. Mao Mao comprend ce système depuis sa place subalterne. Elle connaît les réalités du quartier des plaisirs, mais doit apprendre les codes spécifiques de la cour intérieure. Le contraste entre son bon sens direct et le cérémonial du palais donne au manga une part de son efficacité. L'enquête révèle alors moins une vérité abstraite qu'un ordre social précis. Comprendre un incident exige d'identifier qui peut parler, qui peut se déplacer, qui bénéficie d'une protection et qui risque de payer pour les erreurs des autres. Troisièmement, les poisons et les remèdes comme moteur d'un mystère accessible, les poisons donnent au tome son identité de cosy mystery historique. Leur présence installe un danger réel, mais l'atmosphère ne repose pas uniquement sur l'horreur ou la violence. Les affaires sont abordées par l'observation des faits et par la recherche de causes, ce qui rend la lecture accessible tout en maintenant une tension régulière. Mao Mao s'intéresse autant au dosage, au mode d'exposition et aux symptômes qu'aux intentions possibles des personnes impliquées. Le manga rappelle ainsi qu'une substance ne possède pas un sens moral fixe. Selon son usage et sa quantité, elle peut soigner, nuire ou signaler une imprudence. Cette approche permet de construire des énigmes à échelle humaine, liées à des pratiques quotidiennes, plutôt qu'à de vastes affrontements militaires. La résolution ne dépend pas seulement de connaissances médicales. Elle exige aussi de savoir distinguer accidents, ignorance, négligence et malveillance. Le lecteur est invité à suivre cette logique sans que le récit prétende offrir une démonstration exhaustive de pharmacologie. Les détails médicaux servent avant tout la cohérence des investigations et la caractérisation de l'héroïne. Par ce biais, le volume relie un plaisir classique de récit policier, celui de l'indice interprété, à une immersion dans les contraintes d'une cour impériale. Chaque cas contribue également à rendre visible la précarité des personnes qui y vivent. Quatrièmement, la discrétion comme stratégie de survie face aux arcanes du pouvoir, le premier réflexe de Mao Mao au palais est de se fondre dans la masse. Cette décision n'est pas une simple réserve de caractère. elle découle de sa situation de jeune femme vendue comme servante et de la conscience qu'elle a des risques liés à une attention excessive. Dans un univers dominé par les rangs, être remarqué par une personne influente peut apporter une protection provisoire, mais aussi susciter jalousie, soupçons et obligations. Le manga fait de cette prudence une composante essentielle de son intrigue. Mao Mao souhaite aider lorsqu'elle perçoit un danger, tout en évitant que son savoir ne soit exploité ou mal interprété. Ce dilemme organise ses rapports avec Jinshi, figure importante de la cour, qui remarque ses capacités. Leur dynamique ne se réduit pas à une opposition entre une servante et un supérieur. Elle met en scène deux manières de circuler dans le palais. Jinshi dispose d'une influence et d'un accès aux informations que Mao Mao ne possède pas, tandis que celle-ci garde une indépendance d'esprit que les apparences de la cour n'impressionnent guère. Cette rencontre pousse progressivement l'héroïne hors de l'invisibilité recherchée. Le tome établit ainsi une question durable pour la série: comment conserver son jugement et son autonomie quand la compétence devient elle-même une source de pouvoir convoité. En dernier lieu, une fantaisie historique portée par le contraste entre quotidien et intrigue de cour. Les carnets de l'apothicaire ne cherchent pas à reconstituer fidèlement une dynastie ou un pays historique déterminé. Son cadre relève plutôt d'une fantaisie historique inspirée de la Chine impériale, avec ses palais, ses tenues, ses usages et son administration de cour. Cette distance permet au récit d'exploiter une ambiance historique sans dépendre d'une leçon d'histoire. L'intérêt du tome vient largement de l'articulation entre grandeur apparente et réalité quotidienne. Derrière les bâtiments imposants et le prestige de la cour, il est question de nourriture, d'hygiène, de soins, de travail domestique et de vulnérabilité très concrète. Mao Mao observe ce monde sans fascination excessive. Son expérience antérieure et son savoir pratique l'amènent à privilégier les faits matériels sur les récits officiels ou les réputations. Le dessin accompagne cette approche en donnant une présence visuelle aux costumes, aux espaces clos et aux différences de statut. L'univers est donc pas seulement décoratif, il règle les possibilités d'action des personnages et rend crédibles les malentendus qui alimentent les enquêtes. Par rapport à une aventure de cour centrée sur les grandes décisions politiques, ce volume adopte une échelle plus proche des individus. Il montre comment les enjeux du pouvoir se manifestent dans les corps, les habitudes et les objets, ce qui donne au mystère une portée sociale claire. En conclusion, ce premier tome s'adresse en priorité aux lecteurs qui apprécient les récits d'enquête, où la résolution repose sur l'observation plutôt que sur l'affrontement. Il conviendra aussi aux amateurs de mangas historiques fantasmés, de chroniques de palais et d'héroïnes dont la compétence intellectuelle détermine l'action. La lecture offre un intérêt particulier à celles et ceux qui aiment suivre une logique des indices, symptômes, substances. Usage du palais et position sociale se combinent pour rendre les incidents compréhensibles, sans se présenter comme un ouvrage de vulgarisation médicale. Le volume familiarise le lecteur avec l'importance du dosage, de la prévention et de l'attention aux détails dans un cadre de fiction. Il peut également intéresser les lecteurs sensibles aux récits où la connaissance est inséparable de rapports de pouvoir, puisque Mao Mao doit apprendre à protéger son savoir autant qu'à l'employer, par rapport à de nombreux mangas de cour ou de fantaisie. Les carnets de l'apothicaire se distinguent par son ancrage dans les gestes concrets et par la fonction centrale accordée à l'apothicairie. Le palais n'y est pas seulement le théâtre de romances ou de complots grandioses, il devient un système social que l'héroïne déchiffre à travers ses conséquences matérielles. L'alliance entre atmosphère de cour, mystère mesuré et protagoniste lucide donne à ce début de série une personnalité nette et durable. Si vous souhaitez soutenir Natsuyuga, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.